La pause maternelle.
Bonjour et bienvenue dans la pause maternelle sur Macalade. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Cette émission est destinée aux mamans pour essayer de parler sans tabou des sujets en lien avec la maternité qui peuvent tous nous toucher, toutes et toutes. Et le but de cette émission est de donner la parole aux mamans pour leur permettre de se libérer de leur vécu et faire entendre leur voix. Chaque mois, nous recueillerons le témoignage d'une maman en direct ou de manière anonyme et échangerons avec elle autour de son expérience. Je suis Lucille, musicothérapeute clinicienne au cabinet Laissons Naissance, et je suis la co-animatrice de l'émission avec Elodie, alias Doucela, qui est accompagnante en périnatalité. Bonjour Elodie.
Bonjour Lucille.
Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va avec ce beau soleil, ce printemps qui arrive, les oiseaux qui chantent.
Ça fait plaisir.
Ça peut que aller.
Ça fait plaisir, ça revient, moi je revis. Ça je vous l'ai dit déjà pour la première émission, je vous ai dit que l'hiver c'était pas mon truc, je suis trop contente.
Ça booste le moral.
N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, du coup, on reçoit Floriane, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc on reçoit Floriane, qui a souhaité venir témoigner sur sa maternité. Floriane est porteur d'un trouble, je pense qu'elle nous en dira un petit peu plus. Un trouble neurodéveloppemental. Et voilà, et en fait, au cours de sa maternité, elle a vécu de nombreux défis dans son quotidien. Et qui lui ont compliqué un peu l'équilibre entre ses besoins spécifiques à elle et ceux de toute la famille. Elle a eu un fort besoin de compensation aussi, mais en même temps, elle a aussi ressenti beaucoup de culpabilité qui ont persisté au fil des années. Donc elle va pouvoir nous en parler. Bonjour Floriane, comment ça va?
Bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
Oui, mais bonjour. Bien, écoute, bienvenue. Ça fait toujours plaisir de recevoir des mamans comme ça, voilà, qui ont envie de partager et de transmettre. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant cette partie-là parce que souvent on peut se sentir seul et que en fait, quand on écoute quelqu'un comme ça à la radio, je pense que ça a dû vous arriver maintenant les auditrices depuis le temps qu'on commence à être sur Macalade. Mais du coup, d'avoir quelqu'un aussi qui nous transmet ce qu'elle a vécu, ça permet aussi de se repositionner, de se dire « Ok, je ne suis pas toute seule, en fait, dans cette espèce de grand village occidental. » Peut-être que du coup, on peut faire quelque chose aussi. Et voilà, ça donne du baume au cœur.
Tout à fait. Bah écoute, Floriane, si tu veux commencer à nous partager ton témoignage, avec grand plaisir qu'on t'écoute.
Alors, je vais essayer de faire court parce que aujourd'hui, j'ai deux filles qui ont 11 ans et 14 ans, donc je ne vais pas vous raconter 11 ans et 14 ans de leur parcours. Je vais d'abord commencer par me présenter pour dire qui je suis comme personne avant de vous dire qui je suis comme maman. Alors, je suis Floriane Georges-Roux. Aujourd'hui, je vais sur mes 40 ans. Je suis éducatrice spécialisée et père aidante en santé mentale dans les troubles du TSA, le trouble autistique, et du TDAH, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, parce que je suis personne concernée par ces handicaps et que mes filles ont également ces troubles, donc c'est un quotidien un peu rock'n'roll depuis leur naissance.
Comment as-tu découvert, est-ce que ton parcours d'éduc-spé t'a aiguillé dans la découverte de ton trouble ou qu'est-ce qui t'a fait te poser des questions?
Alors, je pense que la formation d'éducateur spécialisé, elle a pour spécificité surtout l'observation et la question de la mise en lien. Donc, il y a, on va dire, une petite déformation professionnelle, effectivement. Après, je pense aussi qu'il y a l'instinct maternel. Alors, je sais que cet instinct peut faire débat, mais en tout cas, moi, j'ai bien vu et ressenti que du côté de mes filles, il y a avait des choses qui n'étaient pas, on va dire, classiques dans la norme. Après, peut-être qu'on aura le temps de tout expliquer. Mais avant d'arriver au diagnostic, il y a eu d'autres épreuves à traverser. Et effectivement, pour la dernière, c'est à l'âge de ses 8 ans qu'on a pu poser les termes de TSA et de TDAH.
D'accord. Et du coup, par rapport à toi, justement, par rapport aux troubles que tu as aujourd'hui, Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie? Est-ce que tu étais diagnostiquée avant de devenir mère? Ou alors tu t'es fait diagnostiquer après?
Ah, et ben c'est après, tout le challenge a été là, c'est-à-dire que je fais partie de ces adultes qui ont été diagnostiqués sur le tard. Alors je suis donc des années 80, je pense qu'il n'y avait pas tous les dispositifs qu'on a aujourd'hui pour accompagner les enfants qui étaient un peu perturbés et perturbants. Moi, on m'a toujours traité un petit peu de personne ou d'enfant bizarre. Et puis quand est arrivé mes enfants, on va dire que j'ai mes troubles, j'ai plus pu les compenser. Donc j'ai dû traverser des périodes de dépression, de burn-out vraiment très intense. Et puis, avec le diagnostic de ma première, effectivement, ça m'a permis de me dire qu'il fallait que j'aille aussi sur ce parcours-là de reconnaissance. Et donc, je suis allée voir des spécialistes qui ont posé donc, les diagnostics de TSA et de TDAH.
Ok, d'accord.
Quand tu dis enfant bizarre, que du coup tu étais considérée comme une enfant bizarre, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors, j'étais pas du tout dans les codes. Je sais pas si j'ai le droit de citer une radio concurrente. On va dire que quand j'étais petite, par exemple, moi, j'écoutais pas du tout du rap. J'écoutais des vieilles chansons. Alors, ça fait pas de nous porteurs de handicap, mais c'est tout un ensemble. Je m'habillais pas du tout comme les autres. J'étais un petit peu sans discrétion. Il y avait tout un ensemble de choses qui pouvait impressionner mon entourage parce que j'étais pas très lisible en fait pour la société. Ouais. Je l'étais pas vraiment pour moi d'ailleurs. J'étais très très révoltée en permanence. Et puis j'ai traversé quand j'étais plus jeune aussi une grosse période de boulimie qui m'a fait me sentir encore plus différente des autres parce que cette boulimie c'était vraiment dans l'idée de pouvoir ressembler, on va dire physiquement à ses que je n'arrivais pas à atteindre et j'ai beaucoup souffert de me sentir différente sans pouvoir l'expliquer.
Sans pouvoir mettre des mots dessus.
Sans pouvoir mettre des mots.
Mais avec le corps qui exulte, qui exprime,
tout
qui a besoin
fait.
De dire quelque
ouais.
chose, mais voilà, qui est en... Et en qui rage, quoi, affamé d'essayer de comprendre où est sa place, en fait.
Oui, et puis avec, on va dire, une errance médicale, parce que des spécialistes, vous en rencontrez quand vous traversez des périodes de dépression, des maladies alimentaires comme celle-ci. Et malheureusement, il n'y en a aucun qui a pu me dire qu'il y avait une spécificité autre, parce que dans le TSA, le TDAH, si en plus vous avez ce qu'on appelle des comorbidité, donc des troubles associés comme la boulimie, on va se concentrer sur celle-ci, on va dire que c'est de la dépression, mais on ne va pas creuser plus loin. Alors qu'en fait, ce sont plutôt des conséquences du TDAH et du TSA plutôt que des causes premières.
Oui, ça c'est quand même important aussi de le dire parce que c'est des difficultés neurodéveloppementales en fait qui font qu'aujourd'hui on a du mal à cibler. Il y en a même qui vont dire que c'est une invention le TDAH, on l'a déjà entendu il y a quelques mois. Et du coup, je me dis que c'est quand même intéressant d'avoir ton témoignage là-dessus parce que non, voilà ce que ça peut entraîner, voilà ce que ça peut engendrer. C'est pas une invention de l'esprit, ça peut être directement complètement concomitant à j'ai un TSA ou TDAH et il se trouve qu'après la conséquence ça a été la boulimie, ça a été le fait de pas trouver ma place, ça a été le fait d'être un peu la bizarre de la bande et de pas forcément y arriver quoi. Et je pense que ça c'est important aussi d'avoir ton retour de toi adulte sur l'enfant que tu étais.
Oui, je pense que... Alors, mes parents n'ont pas forcément pris en compte tout ça. Ils étaient juste contents que je sois là et dans la vie et m'ont accueilli telle que j'étais, ce que j'essaye d'ailleurs de faire aujourd'hui avec mes filles. Mais mon souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir les accompagner avec plus d'outils que je ne l'ai été pour leur éviter justement ces souffrances-là, sachant qu'elles ont le TSA, le TDAH, et donc éventuellement, elles peuvent aller sur des comorbidités qui sont très fréquentes avec les TND.
D'accord. Ok.
Et aujourd'hui, on entend encore pendant très longtemps, le TSA, ça ne concernait pas les filles. On pensait que ça ne concernait pas les filles. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est juste que les filles, elles compensent plus facilement, elles masquent plus facilement aussi. Enfin, plus facilement. Quand je dis plus facilement, c'est pour expliquer qu'une fille, elle va masquer, qu'un homme, il masquera moins. Mais ça lui demande quand même beaucoup d'énergie. Ça fatigue énormément de masquer, faut qu'on se le dise. Et tu penses aujourd'hui que... est-ce que toi, tu présentais justement des signes du TSA qui ont été mis sur le fait que tu sois juste une fille, par exemple. Moi, j'avais entendu cet exemple qui disait qu'une fille qui est passionnée par les chevaux et qui a un TSA, on va dire que cette passion, c'est juste que c'est une passion de fille. Ça n'a rien à voir avec le TSA, alors que potentiellement, c'est un intérêt restreint, par exemple.
Alors, chez les personnes TSA, c'est très fréquent de retrouver la passion des chevaux. Et c'est très fréquent de retrouver la passion des chats. Et moi, j'étais sur la passion des chats, effectivement. Je cumulais pas mal d'objets autour des chats. Je récupérais même les moustaches que pouvait perdre mon chat et je les collectionnais. Je faisais aussi ça des fois avec leur griffes, j'avais plein d'images de chats un peu de partout, mais effectivement on était plus sur l'idée d'une collection un peu fifi, plus que c'est un peu étrange cette passion là. Et puis j'ai perdu le fil de ta question, si c'était si je masquais beaucoup, hein, c'est ça?
Oui, enfin c'était surtout est-ce que les signes de TSA que tu montrais était plus associé au fait que tu étais une fille, et ce qui a retardé plutôt le diagnostic.
Alors, je pense, et c'est ce que m'a dit en tout cas les thérapeutes qui m'ont rencontré, c'est que j'aurais aussi un HPI, un haut potentiel intellectuel. Mmh. Attention,
c'est ce que j'allais te dire.
C'est pas du handicap. Mmh. Et ça a été ce qui m'a permis, on va dire, de compenser. Ouais. Effectivement, ce TSA-TDAH. Alors moi, pour pouvoir m'intégrer dans la société, j'ai pris ce fameux rôle de bizarre et je l'ai poussé à l'extrême. C'est-à-dire que j'étais celle qui fanfaronnait, il fallait que je fasse rire. Et par l'humour, en fait, je me suis rendu compte que l'humour et les dérisions, ça permettait de faire passer plein de choses et d'excuser plein de choses. Donc moi, ça a été ma technique. Et cette technique-là, elle a tenu jusqu'à ce que j'aie mes enfants. Et c'est à partir de là où tout a dégringolé, parce que les exigences de la vie quotidienne ont été telles que le HPI, à ce moment-là, ce haut potentiel, n'a plus pu compenser. Et j'avais plus trop non plus l'envie d'être le clown de service, puisque j'étais devenue maman. Alors, ça n'empêche pas d'être une maman rigolote. Mais pour moi, c'était devenu un rôle tellement intense que j'en ai quand même perdu une certaine teinte dans ma personnalité.
C'était, quand tu parles d'intensité, c'était quoi en termes d'intensité pour toi? Le moment où du coup tu es devenue maman, que t'as pris ce manteau de maman?
Alors, je pense que déjà, on le dit assez souvent, quand on a un tout petit, un nourrisson, c'est un tsunami dans la vie de tout le monde.
Oui.
Tout le monde est fatigué parce que les nuits sont courtes. On a l'impression de ne pas avoir temps parce que le bébé, il réclame de l'attention permanente. Mais quand vous avez un TND, un trouble du neurodéveloppement, tout ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire pouvoir organiser, planifier, anticiper, toutes ces choses-là sont encore plus laborieuse. Donc moi, me dire il va falloir préparer le repas, là il y a les couches, là il y a le bain, il faut que je case les courses entre deux, j'arrivais même plus à trouver du temps pour me doucher, aller aux toilettes, c'était compliqué parce que j'avais peur de...
Donc problème digestif par la suite.
Alors il y a eu plein de choses, effectivement. Il y avait on sait que dans les TND aussi, la question de la fatigabilité est très importante. Et quand vous êtes jeune maman, la fatigue, on le sait toutes, c'est inhérent à la maternité. Donc je cumulais ce manque de sommeil avec les exigences que réclamait ma petite, qui en plus, pour la grande, on a eu une fin de grossesse très compliquée. Il y a eu une pré-éclampsie, donc oui. C'est un terme un peu médical, pour faire vite, c'est c'est le cordon qui nourrit plus suffisamment le bébé, donc qui peut dépérir, et ça crée de l'hypertension chez la maman qui peut avoir un risque vital aussi. Donc il faut faire un déclenchement de l'accouchement. Ma grande est née prématurée d'un mois et demi avec un petit 1,8 kg de poids. Il y a eu des soins intensifs, il y a eu de la couveuse, enfin il y a eu toute une première fois hyper médicalisée, très très anxiogène, qui fait que quand je suis arrivée à la maison, j'étais déjà un petit peu abattue. Ouais, par ce début de maternité et qui a encore plus exacerbé finalement mes troubles et la dépression a commencé vraiment à se nourrir, on va dire, de ces moments assez rudes et cette sensation d'être en bataille tous les jours a commencé avec cet accouchement qui lui-même, l'accouchement était lui-même très compliqué.
Alors, tu vois, moi, ça me fait penser un petit peu aussi à peut-être mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais peut-être que pour ce genre de situation, ça peut être intéressant d'avoir une doula ou une accompagnante, parce que ce genre de choses, alors bien sûr, maintenant, il y a plus de diagnostics, TSA, TDAH et compagnie. Je pense que c'est pour ça que les gens disent « Non, mais maintenant, vous mettez des étiquettes pour tout. » Non, je pense pas. Je pense simplement que maintenant, il y a un meilleur diagnostic qui est fait et qui fait que du coup, on voit plus les personnes qui ont ces troubles neurodéveloppementaux et qui du coup, ben, peuvent être un peu plus aiguillées, accompagnées et compagnie. Sauf que l'accompagnement, il doit aller aussi jusqu'au bout. Et que moi, j'arrête pas de répéter que c'est facile de dire qu'il faut tout un village, mais en fait, pour les mamans, il n'existe pas ce village. Donc en fait, si tu avais été dans une situation où tu avais été dans un village véritable, avec un accompagnement et du lien social, je ne dis pas que tu n'aurais pas vécu ce que tu as vécu, ce que je dis, c'est que tu aurais été quand même plus entourée, et du coup, tu aurais pu avoir du soutien pour relayer, pour t'organiser et compagnie. Et c'est en ça que y a les Kramsorg, les doulas, les accompagnants en périnatalité, les sages-femmes aussi quand même qui font du soutien psycho-émotionnel, ou alors d'autres thérapeutes à côté, sont importants juste après la maternité. Voilà, donc ça, je voulais quand même le préciser, parce que sur ce genre de difficultés qui peuvent amener à une dépression, il faut quand même savoir aujourd'hui que le suicide maternel est la première cause de mortalité en postpartum, donc c'est-à-dire dans la première année de vie du bébé. Donc là, on parle de quelque chose de sérieux, c'est pour ça que je trouve que ton témoignage est juste incroyable, parce qu'au-delà même des troubles neurodéveloppementaux, on parle aussi quand même de toute la conception de notre société et de comment est-ce qu'on accompagne correctement ou pas les femmes dans leur situation et comment est-ce qu'on arrive à créer ce village.
Travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais, une éternelle gigue. Ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, Un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche, ça pleure et ça fond à vue d'œil. Maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre. Et ça fait semblant d'être encore forte jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lors toute seule, ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entrouvre. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire.
Nous voilà de retour pour la pause maternelle sur Macalade, votre rendez-vous maternité mensuel, tous les premiers lundis du mois. Donc on est avec Floriane qui nous parle de sa maternité avec un trouble neurodéveloppemental. Donc elle nous expliquait un petit peu son parcours, qu'est-ce qui l'a amené à se faire diagnostiquer. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu étais un peu la fille bizarre quand tu étais petite et que tu as décidé d'en faire une force et de devenir la fille un peu rigolote qui fait rire tout le monde, un peu la clown. Et il me semblait important de revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, on a l'image de la personne avec un trouble autistique qui ne communique pas avec l'autre, qui est renfermée dans sa bulle, qui est renfermée sur soi. Mais je pense que le trouble de la communication dans le trouble autistique, c'est au-delà de ne pas communiquer en fait. C'est surtout ne pas avoir les codes sociaux pour communiquer. Je pense que c'est plus là-dessus.
De ne pas comprendre que c'est peut-être plus... Je pense qu'une personne qui est atteinte de troubles autistiques aura du mal à percevoir la complexité en fait, des codes sociaux. Oui. C'est-à-dire que pour eux, c'est la simplicité, en fait. Moi, je te dis ça, voilà, il n'y a pas de souci derrière. Je le dis avec authenticité, franchise, pour en mettre plein d'adjectifs.
C'est la nature peinture.
Nature peinture. Et en fait, bah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et là, après, du coup, ça fait des nœuds au cerveau de se dire, non, mais attends, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais du coup, comment est-ce que ça fonctionne? Et là, après, on commence à se prendre la tête et à pas être bien, en fait. Donc, je pense que c'est important de parler aussi de qu'est-ce que c'est d'avoir un TSA, parce que il y a beaucoup de personnes qui, comme je le disais hors antenne, pensent à l'enfant catatonique ou du coup celui qui va se balancer violemment, comme on peut voir. C'est les représentations aussi pop culture, hein, parce que du coup on a beaucoup d'images d'enfants avec des troubles autistiques où on va dire voilà, ça, l'enfant qui a un TSA, c'est ça. Sauf qu'il y a plusieurs niveaux, il y a des différences aussi, alors plus ou moins en fonction du genre, mais il y a quand même des différences. Et du coup, on n'arrive pas à imaginer qu'il peut aussi y avoir un autisme léger ou alors une compensation. Qu'est-ce que c'est qu'une compensation? Comment est-ce que la personne arrive à se débrouiller? Et en fait, il y a plein de gens en fait, qui ont plein de différents troubles autour. Voilà. Oui. On est tous un peu névrosés, ça, tous les psychologues le reconnaîtront aussi. Donc, on a tous nos petits trucs. Mais... pour certains, c'est beaucoup plus difficile d'avancer. Et ça, je pense que c'est aussi faire preuve un peu d'intelligence.
Oui.
émotionnel et un peu d'empathie, de comprendre ce qui se passe chez l'autre.
Et je pense aussi qu'il est important de rappeler qu'une personne avec un trouble autistique, c'est pas parce que ça se voit pas. C'est sûr qu'il y a des personnes autistiques, on va le voir parce qu'il y a des signes visibles, mais il y a aussi énormément de signes invisibles qui impactent tout autant la vie d'une personne avec un trouble autistique. Et je pense que Floriane, tu seras la mieux placée pour nous en parler.
Alors, la mieux placée, je ne sais pas, parce qu'effectivement, comme vous le dites à très juste titre, aujourd'hui d'ailleurs, on parle de TSA. Alors, c'est un terme qui est assez récent. Mmh. C'est le trouble du spectre de l'autisme. Donc, spectre, ça englobe tous les degrés qu'il peut y avoir dans l'autisme, toutes les formes d'autisme. Moi, je suis qu'une toute petite partie de ce spectre-là. Il y a effectivement des personnes qui sont verbales, d'autres qui ne sont pas verbales. Puis après, comme je vous le disais aussi hors antenne, il y a la question de notre identité propre, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a un autisme léger comme moi, si vous prenez une autre personne, ça va se transcrire de manière complètement différente. Effectivement, moi, je pense que j'ai, depuis toute petite, une force de vie et un besoin d'extérioriser, un besoin de croquer un petit peu dans ce bonheur d'être là, qui fait que ça s'exprime par beaucoup de sourires, beaucoup d'enthousiasme, mais aussi par des périodes, quand ça va pas, ben pour le coup, très, très sombres.
Oui, le down vraiment profond, ou du coup,
oui,
là,
voilà, c'est compliqué. Tout à fait. Mais ça, c'est ma personnalité, c'est ma manière d'être, où l'autisme s'exprime, et le TDAH aussi, parce que, alors pour le coup, j'ai un autisme léger, mais j'ai un TDAH qui est assez sévère. Les deux qui se rencontrent, ça fait quelque chose d'assez explosif pour le coup.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence, par exemple, entre les deux ?
Alors, je vais plutôt dire qu'il y a des points communs entre les deux. Ce sont donc des troubles du neurodéveloppement. Donc ça, c'est la première famille. Dans les troubles du neurodéveloppement, on va avoir le TSA, on va avoir le TDAH, on peut avoir alors les DIS, qui, alors c'est une autre appellation aujourd'hui parce que les sigles changent régulièrement, mais je pense que pour le commun des auditeurs, on va parler des DIS, donc dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc. Donc c'est un ensemble de troubles dans les TND. Souvent, on retrouve, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des problèmes dans les fonctions exécutives. La mémoire de travail, la planification, l'organisation, par exemple la gestion du temps, ça peut être très compliqué. Je sais que j'avais rendez-vous à 10h à Radio Calade aujourd'hui. Malgré mes différentes alarmes, j'ai eu du mal à être présente à l'heure, mais parce que pour moi, c'est très compliqué de m'organiser. Alors, après, dans le TDAH, on va être... Moi, la manière dont il s'exprime, en tout cas, assez ébullon, c'est-à-dire que je vais beaucoup papillonner. J'ai pas forcément d'intérêt restreint comme on parle dans l'autisme, où les gens sont focalisés sur une passion. Ça peut être le cas, comme ça peut ne pas être le cas. Donc la limite entre TSA et le TDAH, elle est pas si évidente que ça. C'est pour ça qu'il y a des diagnostics et qu'il faut des spécialistes, parce que c'est très compliqué de déceler de quoi relève le TSA, de quoi relève le TDAH. En tout cas, moi, je parlerai de TND parce que j'ai vraiment les deux qui se répondent. Je peux avoir des difficultés dans les interactions sociales. Donc ça, on dirait que c'est plus le TSA. Mais on sait aussi que pour le TDAH, c'est pas si simple que ça. Oui. Parce qu'il y a cette impulsivité qui fait que... Enfin, pour moi, des fois, je vais dire des choses qui ne se disent pas.
C'est ça.
Parce que j'ai pas le filtre qui me permet de retenir... si je trouve que quelqu'un sent des pieds, ça m'est arrivé avec une de mes collègues, je vais lui dire un peu sans filtre, par exemple. Je sais qu'avec mes filles, par exemple aussi, je peux leur dire des choses qui peuvent être blessantes sur leur apparence, alors que quand elles sont en pleine adolescence, comme ma grande, on va essayer d'éviter d'aller sur ce terrain-là. Moi, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très spontanées et qui complexifient la relation à l'autre. Après, le TSA, il va être un peu dans la l'énergie que ça me demande de décoder l'autre. C'est-à-dire, je vais regarder ses yeux, je vais regarder sa bouche, je vais regarder comment il bouge, je vais essayer de comprendre ce que ça exprime pour pouvoir m'adapter en face. Mmh. Et des fois, j'ai un peu du mal et c'est là où je vais sortir la carte un peu de l'humour ou de la dérision, parce qu'en fait, c'est surtout une réponse pour dire là, mince, je ne sais pas comment faire, donc on va essayer de trouver un registre qui va passer crème et qui va faire en sorte de masquer ma difficulté relationnelle du moment.
Oui, et puis surtout, ça doit être très fatigant de devoir toujours se suradapter en fait à la personne que tu as en face de toi, même si des fois tu le fais de manière inconsciente, mais les fois où du coup ça bug et que tu passes sur l'humour, du coup tu dois quand même être un peu fatigué.
Oui, tout est énergivore. Alors moi, j'ai trouvé mon petit système, c'est que je fais, depuis que je suis toute petite, automatiquement des siestes. Donc même au travail, j'ai mon petit Gaston Lagaffe que j'ai imprimé avec marqué en pause pour faire comprendre qu'il ne faut pas me déranger. C'est vraiment crucial. Ce n'est pas tant pour dormir, c'est surtout pour faire une coupure sensorielle. C'est-à-dire que j'ai un casque anti-bruit, je me mets une couverture sur moi, je me mets un petit masque de nuit pour être dans l'obscurité, et pendant trois quarts d'heure il faut vraiment pas me déranger, parce que c'est ce qui me permet de ressourcer et d'attaquer l'après-midi à peu près correctement. Toute la difficulté, c'est quand les filles reviennent de l'école, j'ai rechargé les batteries, mais pas suffisamment en fait. Et l'après-école, tout le monde qui est parent ou en tout cas en situation éducative sait que les enfants ils déchargent, les enfants ils doivent faire les devoirs, les enfants il y a un timing à respecter pour la douche et il y a un timing à respecter pour le repas, et puis après il y a tout le rituel du coucher, et tout ça, ça demande une énergie que malheureusement moi je n'ai pas ou peu. Alors heureusement, j'ai un compagnon qui est très présent et très soutenant, une famille qui est très présente, très soutenante aussi. Je suis séparée du papa de mes filles qui, pour le coup, prend les filles très régulièrement, on est en garde partagée, ce qui me permet d'avoir des pauses aussi. Mais quand je les ai, c'est vraiment un moment anxiogène. Et on parlait de culpabilité au tout début de l'émission. C'est vrai que d'accueillir ses enfants avec l'appréhension de « mon Dieu, il faut tenir la soirée », c'est culpabilisant, parce qu'on aimerait pouvoir être content de retrouver ses enfants. Mmh. Alors, je le suis, hein, mais tout ce que ça va exiger derrière prend le pas, et le plaisir, il est quand même diminué. Et c'est vrai que quand elles sont là, moi, j'ai souvent envie de me retrancher dans ma chambre et qu'on se débrouille sans moi, sauf que ce n'est pas possible. Et je finis les soirées souvent épuisées.
Et comment tu as réussi à gérer un peu cette culpabilité, en fait, d'être simplement fatiguée, des fois de plus en pouvoir, de vouloir te retrancher dans ta chambre face au regard peut-être extérieur, parce que les mamans sont souvent quand même un peu jugées ou des fois un peu surconseillées sur des choses sans qu'on puisse comprendre comment elles fonctionnent peut-être au départ aussi, sans avoir ce regard et de se dire peut-être... Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Parce que j'ai l'impression que ça ne va pas forcément. Comment est-ce que toi, tu as réussi, ou comment est-ce que tu as vécu cette période-là face à cette culpabilité peut-être que tu ressentais ?
Alors la réussite, on verra plus tard, quand les filles seront autonomes. Et
Je parle surtout sur le côté petite enfance notamment, où du coup, tu disais que les enfants demandent beaucoup d'attention sur les premiers temps. Parce que et bien sûr que la réussite parentale, le trophée, le Graal, ça on pourra bien attendre pour avoir quoi que ce soit. Mais par contre, vraiment sur la petite enfance, parce que c'est la période des 3 à 4 ans qui sont fatigantes un petit peu. Donc
Pour la grande qui vit les pots, c'est quoi l'expression, qui prend les pots cassés, je sais pas, qui expérimente, en tout cas on s'expérimente pour la première fois avec nos aînés, ça a été autre pour la deuxième. Pour la grande, j'étais vraiment dans le stéréotype, c'est-à-dire que pour pouvoir tenir, j'étais dans l'image de la mère que je m'étais représentée devoir être. J'étais dans mes schémas d'éducatrice spécialisée, donc j'étais dans la théorie et absolument pas à l'écoute de la personnalité de mon enfant et de moi-même. Donc ça a été les trois premières années vraiment très difficiles pour moi parce que je voyais que ça ne fonctionnait pas, mais je n'arrivais pas à faire autrement. Je voyais bien aussi que pour ma petite, je pouvais être, je pense, un peu étouffante. L'arrivée de la deuxième et les diagnostics qui ont suivi dans les années d'après m'ont permis un peu de lâcher prise. Je pense que de toute manière, pour pouvoir vivre son rôle de maman de manière sereine, TND ou pas, il faut du lâcher prise parce qu'on a des représentations qui ne collent pas à la réalité.
Pas du tout.
Parce que c'est nos enfants qui nous inventent aussi en partie comme parents, en fonction de qui ils sont. Donc c'est l'expérience qui m'a permis un peu de mettre de l'eau dans mon vin, comme on dit. Mais la culpabilité, je la porte toujours. Elle est toujours compliquée parce que je vois bien, c'est surtout dans le regard de mes filles, de ma fille aînée, qui voit la bizarrerie en moi, l'étrangeté en moi, qui est dans une phase où il faut surtout pas faire de vagues, être comme les autres, et elle a pu exprimer et me dire qu'elle avait honte. Et ça, c'est très, très difficile à vivre parce que c'est pas ce qu'on veut imposer à nos enfants, c'est pas ce qu'on veut être pour eux. Après, je pense que, de toute manière, tous les parents font honte à en donner à, leur,
oui, je pense
à leurs enfants.
Oui, puis après,
je pense
comment toi, t'as pu le ressentir aussi intérieurement. Voilà, ça fait...
Bah, ça fait écho à cette partie de mon enfance où j'étais étrange et on me ramène cette étrangeté-là et je me dis elle est toujours présente et elle le sera peut-être toute ma vie. Donc aujourd'hui, j'apprends à m'apprivoiser. Me permettre de m'apprivoiser, c'est diminuer certaines conséquences de mes TND et de me dire là, tiens, on est dans une situation sociale où il y a ta fille aînée et t'as compris qu'il fallait te mettre en off. Donc voilà, c'est des choses que j'apprends, qu'elle me permet d'apprendre. Alors ça me demande de l'énergie parce que ça me demande énormément de me contenir. Et moi, j'ai pas trop l'habitude de ça. Voilà, il faut que j'apprenne un petit peu à entendre ce qu'elle me dit. Mais voilà, j'ai pu entendre... Comment, je ne sais pas si c'est de la souffrance, mais en tout cas, c'est vraiment une compliqué alerte. Pour elle de grandir avec une maman qui a un TND. Ça, c'est clair et net. Et je pense, comme on le disait tout à l'heure, qu'effectivement, être accompagnée, tant pour les enfants que pour soi en tant qu'individu et parent, quand il y a des particularités, c'est important pour dédramatiser et pour apprendre chacun à être soi dans notre famille. Voilà, tout simplement.
Moi, je voulais proposer un tout petit truc, parce que ça va être bientôt la fin de l'émission. Mais pour les mamans qui ont du coup des TND, en musicothérapie, moi, voilà ce que j'utilise. J'utilise la musique. Vous pouvez vous focaliser sur une musique qui vous fait du bien pour pouvoir vous préparer psychologiquement à un événement. Par exemple, une remise, une audition de votre enfant où vous devez quand même peut-être bien passer ou ce genre de choses. Vous préparer psychologiquement et avoir ce que j'appelle des doudous musicaux qui vont vous permettre de vous raccrocher. Ça peut être un instrument de musique que vous mettez dans votre sac et qui vous fait du bien parce que la matière vous fait du bien et vous permet de garder un ancrage. Ça peut être voilà, un malade lunaire comme j'aime bien faire parce que c'est des malades thérapeutiques et ça permet de respirer à chaque fois qu'on égrène en fait une petite boule. Mais ça peut être aussi cet exercice-là de vous entraîner chez vous. Attendez, entraînez-vous chez vous. Vous avez votre porte d'entrée ou alors votre porte de salle de bain. Vous mettez la musique que vous avez choisie pour vous préparer psychologiquement et vous faites comme si vous étiez peut-être quelqu'un d'autre. Et vous décidez d'interpréter ce rôle différemment. Vous décidez que là, vous allez être la maman qui va entrer en jeu et qui se dit « Voilà comment moi, j'ai envie d'être dans cette posture-là, dans ce rôle-là. » Et vous allez aller à fond et essayer de ressentir les différentes émotions qui vont vous traverser lorsque vous allez faire ça. Comment est-ce que je vais me déplacer? Comment est-ce que j'ai envie d'être? Ça, c'est pas du tout un truc schizophrénique. C'est vraiment de pouvoir s'entraîner aussi un peu avant, de comprendre cette mécanique-là pour ensuite pouvoir mieux l'intégrer et la mettre en place. Lorsque c'est le moment, ça vous générera beaucoup moins de stress. C'était ma petite bulle musicothérapeutique, voilà. Mais je voulais quand même, parce que je sais que je reçois aussi des mamans qui ont des TND, et juste avoir des petits exercices comme ça, des fois, ça permet d'aller un peu mieux. Voilà.
Merci, Lucille.
Merci.
Alors, ce n'est pas la fin du témoignage de Floriane, parce que je crois qu'il y a encore des choses à raconter. Mais malheureusement, on est obligé de clore cette émission. Ce qu'on vous propose, comme on vous propose depuis deux émissions déjà, c'est un petit bonus que vous retrouverez sur le site de l'émission, où on va du coup pouvoir poursuivre le témoignage de Floriane. En tout cas, merci beaucoup Floriane pour ce témoignage et de nous avoir fait part de ton parcours dans le diagnostic et ton parcours dans la maternité avec un TND. On se retrouve tous les premiers lundis de chaque mois de 10h à 10h30 sur Calanma Radio. En attendant, vous pouvez nous envoyer vos témoignages à l'adresse mail de l'émission, donc qui est lapausematernelle@outlook.fr. Bonne journée.
Bonne journée.
Merci, au revoir.
La pause maternelle.